Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi, dans tous les sons et dans tous les sens, là où ça se passe et là où ça coince.
En direct du studio 511 de la Maison de la Radio, une émission réalisée à flux et oreilles tendues par Jérôme Chélius, assisté de Lucille Valérie, avec à la technique aujourd'hui Éric Morin.
Au sommaire cette semaine, deux luttes qui en disent long sur le monde tel qu'il va. Deux histoires de sous et de solidarité. Avec les vieux qui en bavent et à qui on demande encore un effort. Et à Barcelone, où après le référendum, la tension continue de monter. Les uns veulent l'émancipation, les autres la dignité, mais à la fin, c'est qui va payer ?
Barcelone et toutes les villes de Catalogne a été prise par des gens qui débordaient l'unité politique du nationalisme. Clairement.
Les Russes seront toujours à nous.
Vous avez eu une vie difficile, vous, en fait.
Vaut mieux pas en parler. Ça reste secret. C'est mon secret à moi, ça.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux, les bruits qui courent ?
Qui fout le bordel ? Je veux dire, vraiment le bordel. Pas le petit bordel des salariés comme les GMS ou Sempérit qui luttent contre la délocalisation, mais le gros bordel qui consiste à toujours déséquilibrer davantage la répartition des richesses en supprimant l'ISF, par exemple. Est-ce que c'est pas foutre le bordel, ça ? De creuser toujours plus les inégalités au nom des lois des marchés, comme Bruno Le Maire cette semaine avec des trémolos dans la voix.
Nous allons supprimer l'ISF sur les valeurs mobilières. Vous qui voulez récompenser le risque et l'audace, shootez-nous dans ce combat. Rejoignez-nous pour aider la France à relever la tête et nos entreprises à créer davantage d'emplois.
Merci, monsieur le ministre.
Soutenez-nous, disait le ministre de l'économie, à quoi beaucoup de voix répondent qu'en fait, les plus riches seront les grands gagnants du budget Macron. C'est même la une du Monde de ce week-end, car la suppression de l'ISF, avec la baisse de la taxation du capital, offre 4,5 milliards d'euros de cadeaux aux plus fortunés.
Puisque 46% des gains de la loi de finances iront aux 10% des ménages les plus riches.
Et c'est pas des gauchistes qui le disent, hein, mais l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Et pendant ce temps-là, après le coup de rabot aux APL, vient la hausse de la CSG sur les retraites. Et du coup, ce sont les retraités qui, faute de se trouver un boulot, se mettent à leur tour à foutre le bordel. Et Charlotte Perry est allée les retrouver manifestant dans la rue.
Oui, un vent de colère souffle chez les retraités, accusés d'être des enfants gâtés qui ont profité du plein emploi, puis des retraites à taux plein et qui coûtent aujourd'hui cher à la société. Il va falloir qu'ils mettent un peu la main au porte-monnaie. Emmanuel Macron va donc les mettre à contribution en augmentant de 1,7 point la CSG pour les plus aisés, c'est-à-dire ceux qui touchent plus de 1200 euros. Mais comment vit-on aujourd'hui quand on est vieux avec si peu ? On ira donc voir les vieux qui en bavent dans la manif et en maison de retraite pour rappeler nos dirigeants à la réalité.
Des fins de vie ténues au bord de la misère, trop facilement couvertes par la politique. Et pour leur CSG, arbitrage prévu ce mardi avec le projet de loi des finances. Mais mardi aussi, un autre rendez-vous est prévu dans le bras de fer qui se poursuit en Catalogne. C'est la date retenue par le Parlement catalan pour une déclaration solennelle. Une semaine qui s'annonce décisive là aussi, puisqu'après le Premier ministre et le roi d'Espagne, même les banques ont décidé de peser tout leur poids contre l'indépendance. Moins d'une semaine après le référendum interdit et mouvementé, donc Antoine Chao nous ramène à Barcelone.
Oui, on va revivre minute par minute et à bicyclette dans les rues de Barcelone cette journée mémorable d'El Uno, le 1er octobre, qui a profondément secoué la monarchie espagnole. Une journée héroïque ou pathétique selon où l'on se place.
Jusqu'à 17h sur France Inter, pendant que les uns veulent l'émancipation, les autres la dignité, comme un bruit qui court en Catalogne et sur le macadam parisien quand les retraités sont dans la rue.
Je m'occupe de rien, je suis chez moi, je suis tranquille, qu'on fout la paix.
Voilà. Ça se détraque de partout, on répare rien, on doit refaire ma chambre, on ne l'a pas refaite. La vie est chère maintenant.
Et qui avec les
gens ? J'en ai marre de votre culture de merde.
Oh non, 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 ça y est, ça y est, j'en parle plus.
Non, ça va plus, il n'y a plus rien qui va. Pour moi, il n'y a plus rien qui va.
Non, je le donnerai après.
Ah, c'est quoi ça ? Ah non, ça va plus, il n'y a plus rien qui va ici.
Vous avez travaillé toute votre vie, de 14 ans jusqu'à la retraite, sauf les trois dernières années où vous étiez au chômage. Et pour tout ça, pour avoir aujourd'hui une retraite de 800 euros.
Vous vous rendez compte ? C'est lamentable, lamentable.
Les contributeurs nets seront les 60% de retraités les plus aisés.
Emmanuel Macron, Le Point, 31 août 2017.
Les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les jeunes.
J'étais pour lui, mais maintenant il augmente tout partout, alors... Ça va pas.
Vous avez voté pour lui ?
Hein ?
Vous aviez voté pour lui ?
Des produits.
Vous aviez voté pour lui ?
J'avais voté pour lui.
Guy Vanctil,
Charlotte Perry,
Antoine Chao.
C'est minable ce qu'on touche, nous. C'est minable. J'en ai marre. Hein. J'en ai marre de serrer, d'aller acheter des produits qui coûtent pas cher, toujours serré. Et psychiquement, on est fatigué. Hein. Moralement, on est vraiment déprimé. Hein. On en a marre. Hein. Franchement, on en a marre. On n'en peut plus.
Hashtag comme un bruit.
Jeudi 28 septembre, il est à peu près 14h30 et le cortège des retraités vient de quitter la place de l'Opéra en direction de Miroménil. Il y a beaucoup de monde quand même cet après-midi et beaucoup de retraités très remontés.
Macron, il se fout de la gueule du monde.
C'est un salopard.
Parce qu'il veut augmenter la CSG pour retirer sur les retraités qu'on a bossé toute notre vie. C'est se foutre de la gueule du monde.
Il est en train de tuer les retraités, là.
Parce que vous allez être concerné par la hausse de la CSG?
Oui, parce que, enfin, lui, il avait dit qu'un retraité ou une retraitée qui touchait 1 200 € par mois, c'était quelqu'un de riche. Et il a qu'à essayer de vivre, lui, avec 1 200 € par mois, Macron. Et on verra.
Et vous, c'est pareil, alors ça va vous impacter?
Ah bah oui. Mais il faut compter dans les 30 euros, hein, par mois. Bah on est riche, quoi. Une honte,
ça. On a pas volé la retraite.
Il y a du monde, hein, quand même.
Oui. Mais il y en a pas assez. Pour faire quelque chose de bien, tout le monde devrait s'arrêter.
Ah oui.
Tout le monde. Et qu'on aille tous à l'Elysée.
La grève générale.
Voilà, exactement. Ça serait la meilleure solution.
Il y en a marre.
Et tous devant l'Elysée.
Les jeunes, les vieux, les salariés, les chômeurs.
Les jeunes, beaucoup de jeunes il nous faudrait. Des jeunes et des vieux. Parce qu'on est vieux, mais on tient debout encore.
Ouais, vous êtes tous encore très vaillants. Hein.
On voudrait bien profiter de la vie maintenant qu'on est à la retraite aussi. Je veux dire, pouvoir profiter un petit peu, mettre de l'essence dans la bagnole, se balader. Parce que c'est ça, quand tu dis, vous allez gagner combien? 1 500 par mois. Ouais. Ah oui, mais 1 500.
Mais qu'est-ce que c'est, 1 500?
Il y a 600 ou 700 de loyer. Après, il y a l'assurance de la bagnole. Après, il y a ça. Et puis, il faut bien qu'on bouffe, non?
Il y a la mutuelle, il y a le gaz, l'électricité, il y a...
On fait pas de
Plusieurs réformes fiscales sont reportées. Les impôts vont pas baisser tout de suite, mais l'augmentation de la CSG, elle, est maintenue.
L'augmentation de la CSG se fera dès l'année prochaine. En échange, les salariés du privé seront exonérés de cotisations sociales, mais les retraités dont la pension dépasse 1 200 € subiront cette hausse sans compensation.
Le retraité semble perdant, le salarié, lui, gagnant.
On s'en doute, comme toujours, certains y gagneront, d'autres seront perdants.
Les retraités vont devoir mettre la main à la poche. Seule compensation, une exonération pour certains de la taxe d'habitation.
C'est honteux ce que le gouvernement nous fait, honteux.
Pourquoi ?
Parce que moi, je veux bien être solidaire. Mais on a travaillé pendant des années. On dirait que les vieux, entre guillemets, doivent tout donner. À partir du moment où ils ont un toit et de quoi manger, ça y est. Ils doivent donner tout ce qu'il leur reste. On a besoin, nous aussi, d'avoir un peu de loisirs. Alors, qu'est-ce qu'on fait des vieux? On les pique, c'est ça? J'ai entendu aussi les journalistes dire « Tout le monde va tirer profit de la réforme ». Ça veut dire que les retraités ne comptent pas? C'est pas des Français? Parce qu'eux, ils vont pas tirer profit, hein? C'est eux qui vont payer. Non, je suis pas d'accord. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas manifesté, ben je viens. Bon, je me trouve derrière la CGT, mais je suis pas du tout CGTiste. Hein. C'est parce que je viens d'arriver, là, j'étais en retard. Mais honnêtement, je suis quand même scandalisée.
Et la hausse de la CSG, là, ça va vous impacter à hauteur de combien, à peu près, par mois?
Pas loin de 100.
100 € par mois?
Oui. Et puis la baisse de la taxe d'habitation, ben, ça va pas. Je suis mal placée. Ça va pas m'impacter du tout, ça.
Vous allez continuer à payer la taxe d'habitation, mais vous allez aussi avoir l'augmentation de la CSG.
Donc les 100, ils partent comme ça. Moi, je demande pas à être assistée, hein. Mais il y a des limites quand même. Hein. Je trouve ça profondément injuste. De toute façon, j'ai pas voté pour Macron. Alors là, c'est plus les vraies valeurs.
Vous
avec une grande pancarte, prendre aux vieux pour donner aux jeunes, c'est stupide, mieux vaut prendre aux riches pour donner aux pauvres.
Oui, avec quand même, il manque un point d'interrogation après aux jeunes, là, parce que en fait, ils n'auront rien. Hein. On ne va pas prendre aux vieux pour donner aux jeunes, on va prendre aux vieux pour donner au monde de la finance. Alors, encore ce matin, ils ont décidé de réduire les allocations versées aux jeunes couples qui ont un enfant, par exemple. Mais il y en a tous les jours, hein. Et les gens ne s'en rendent pas compte que chaque jour, on leur grignote un petit bout. Mais les modestes, toujours, hein. Parce que les grandes fortunes, on n'y touche surtout pas. Au contraire, on leur fait des petits cadeaux, comme l'ISF, des petits machins comme ça. L'impôt sur la fortune, moi, je le paye pas, hein.
Voilà, vous êtes concerné, vous, par la hausse de la CSG?
Ah ben, juste bien. Ma pension, c'est 1 200 € par mois. Juste plein pot dedans. Mais c'est dégueulasse, hein, parce que, bon, d'une part, ça réduit nos ressources déjà, ça nous oblige à se priver d'un certain nombre de choses. Hein. Prendre le train pour aller voir mes gosses dans le sud, ça devient un problème, hein, parce que ça coûte cher. Là, on est en train de nous massacrer, y compris sur notre vie de tous les jours, sur ce à quoi on tient à cœur. C'est terrible, hein. Déjà, quand on prend la retraite, c'est pas bien épais, mais quand on la réduit d'année en année, et de mois en mois même, ça devient catastrophique. Alors oui, on doit réduire. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors on va les rebosser, mais les jeunes, ils vont faire quoi si on prend leur boulot?
Les vieux, sont bien trop nombreux. Qu'est-ce qu'on va faire de, tous ces vieux? En attendant qu'ils décollent, on ne sait plus où les mettre. On détruit même les écoles pour faire des maisons de retraite, des milliers de résidences en ville. On se croit en arrivant, comme dans Resident Evil, tellement il y a de morts vivants. Ils nous pompent l'oxygène. Il faut trouver une solution. Il y a des petits patelins où les jeunes sont en voie de disparition. Il y a trop de vieux, les vieux sont bien trop nombreux. Qu'est-ce qu'on va faire de, tous ces vieux?
Comme un bruit qui court.
Après la manif des retraités nantis, qui perçoivent une pension supérieure à 1 200 €, nous voici arrivés dans le 12e arrondissement de Paris et on se rend à la résidence Saint-Éloi, une maison de retraite publique gérée par la ville de Paris.
Bonjour.
Madame Boisquil, directrice de la résidence.
Charlotte Perry.
Enchantée. Et là, c'est un résident qui sort, qui va faire son petit tour. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites dehors? Ben, je vais accueillir quelqu'un de France Inter.
Je m'occupe de rien, je suis chez moi, je suis tranquille qu'on foute la paix.
Voilà.
D'accord.
Non, mais il n'y a pas de problème. Non, moi, j'ai des problèmes, je ne sais pas pourquoi déjà.
Ah, oh, si vous savez.
Non, je ne sais pas.
Un petit peu.
J'ai tout ce qu'il me faut, puis j'ai des problèmes. Pourquoi? J'ai ma fille, elle se baigne, elle est en Corse.
Ah, parce que peut-être que vous ne voyez pas suffisamment
et
votre
la Bastia,
famille.
Mais non, mais c'est pas ça, mais la Bastia.
Ah. La
elle
Bastia.
M'a dit d'y aller là-bas. Mais la Bastia, puis elle a une bonne place dans l'escalier. Elle est sous-préfet.
Ah, et donc?
Elle gagne plein de pognon pour rien foutre.
Oh, arrêtez. Arrêtez, elle l'a mérité, enfin. Hein? Oh. Allez, bonne matinée.
Au revoir.
Allez-y. Eh bien, on va accompagner monsieur. Allez-y. C'est ça?
Oui.
C'est une maison de retraite comme il en existe beaucoup en France. Oh, pas une de ces maisons médicalisées privées pour seniors huppés. Non, celle-ci est gérée par le Centre d'Action Sociale de la ville de Paris. Un grand bâtiment assez dégradé, implanté au cœur d'un quartier HLM du 12e arrondissement. On y trouve aussi un restaurant émeraude ouvert à tous et le soir, les sans-abri peuvent venir y manger. Les retraités payent en fonction de leurs revenus. Anciens ouvriers, petits employés et de plus en plus de précarité. De gens cabossés que la vie n'a pas gâtés. Selon le dernier sondage IFOP du Secours Populaire, les vieux sont de plus en plus nombreux à tomber dans la pauvreté. Un peu de chômage, quelques accidents de parcours et le tour est joué. Voilà une pension de retraite en peau de chagrin. Et dans une société ubérisée, les jeunes précaires d'aujourd'hui feront les vieux dans la misère de demain. Retour donc à la résidence Saint-Éloi à la rencontre de ces vieux qui en bavent.
Troisième étage.
Allez, venez.
Alors ici, on est dans l'étage le plus abîmé. Vous verrez après.
Il y a des boîtes aux lettres, là, dans l'entrée.
Oui, alors en fait, ici, à chaque étage, chaque résident a sa boîte aux lettres.
Et une petite bibliothèque à côté. Tout et un téléphone.
Exactement. Et donc, un petit salon où il y a une dame qui s'occupe de ses plantes. Il ne faut surtout pas y toucher, les trois plantes. Bonjour, madame. Donc là, c'est une aide ménagère d'un résident.
D'accord.
Il y a de la vie à Saint-Éloi, ça ne s'arrête jamais. Bonjour, monsieur Pastoureau. La conseillère, vous voulez dire?
Non, je vais récupérer ma poubelle.
Ah, je vous en prie.
Ah, pour votre prise de soin.
Oui, merci.
Vous savez, des personnes, j'en vois beaucoup, monsieur Pastoureau. Bonjour, madame.
Je vous laisse avec vous.
Ouais. D'accord, super. Et après, je vous ferai visiter.
D'accord. Elle est dynamique.
Oui.
Ouais. Vous vous appelez comment?
Daniel.
Vous habitez ici depuis combien de temps?
Oh, ça fait plus d'un an.
Et avant, vous étiez où?
Bah bon, bah, j'étais... vous avez compris? Non?
Non.
Bah, je dormais dehors. Je dormais dehors. Vous avez compris? Je dormais dehors.
Vous dormiez dehors? On peut se mettre dans le couloir, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Parce qu'il y a les travaux, là-bas. Voilà.
Alors oui, moi, je dormais à l'extérieur, quoi.
Vous me l'avez dit en chuchotant?
Oui. Je veux pas que les gens écoutent.
Vous êtes resté combien de temps dehors?
Pas mal de temps. Il y a des choses qu'on on serait bien passé, quoi.
Comment vous êtes retrouvé à la rue, vous?
Bah, un jour, j'ai plus de boulot. Alors, hein, plus de boulot, bah, on peut pas payer. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Tout s'enchaîne, tout suit, quoi. Enfin, vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit.
Mais jusqu'à un certain point, vous aviez une vie qui vous convenait, ou vous aviez un travail, un logement?
Oui, oui. J'ai fait de la manutention, j'ai fait du ménage, enfin, un peu de tout, quoi.
Et aujourd'hui, vous touchez une pension retraite, quand même, ou...
Bah, je touche 700. C'est pas beaucoup, hein. C'est tout ce que je touche. Ça part vite.
Ici, vous payez, ou...
C'est... Non, je paye, je fais plus rien. Non, je paye. Il faut quand même que j'achète à manger. Hein. Parce que ici, c'est payant ici. Hein.
Au restaurant, là?
Ah, oui. Bonjour. Enfin, c'est une vie qui est pas. Ça va pas, quoi. Ça me convient pas.
Avez-vous
67. J'ai jamais été marié. Mais...
Et ici, du coup, vous avez. Enfin, vous êtes fait des copains, vous avez rencontré des gens?
Bah non, je suis bien. Hein. Je suis habitué comme ça, alors. C'est marrant, hein, c'est pareil. Hein. Mais il picole, il boit, il prend pas.
Bonjour.
T'interviewerais?
Oui.
N'importe quoi.
Pourquoi?
C'est n'importe quoi ici.
Pourquoi?
Laisse-moi
partir, faire ton œuvre. Pas
content de ça. On va lui chanter une chanson. Hein? Ouais, allez. Bon, bah, je vais quand même aller.
Bonjour.
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 Bonjour. C'est moi, vous venez peut-être.
Je peux rentrer?
Oui, bien sûr. On va aller s'installer dehors.
Oh là là.
Mais j'ai une terrasse, j'ai tout bien.
Ah, oh, c'est chouette.
Prenez le fauteuil qui vous attend, qui vous tend les bras. Asseyez-vous là.
C'est votre petit jardin?
Oui.
C'est agréable, là, il fait assez beau.
Il fait beau, on est bien.
Ouais.
Là, je suis bien, parce que j'ai une terrasse, j'ai mon petit jardin devant, ça va. Ça m'occupe. Parce que sinon, autrement, ça, hein, la vie serait longue.
Vous appelez comment?
Je suis l'ancien. À prendre 90 ans.
90 ans, vous avez?
Attends, ils sont pas encore là. Dans un mois et demi. Ah, c'est terrible. C'est comme ça la vie.
Vous habitez ici depuis combien de temps?
Ça fait 4 ans. Oh. 5e année bientôt.
Et vous avez un petit studio?
J'avais la grandeur de je vais me passer à 12 mètres carrés.
Avec un petit coin cuisine?
Oui.
Un petit bureau, une télé, un lit et votre fauteuil?
Oui, c'est à moi. Je relaxe pour mettre les jambes en l'air.
Et avant, vous habitiez où?
Au 41 rue de Lyon. En côté de chez Peugeot, qui est à cette époque-là. Oh, j'avais un appartement fantastique. Oh, il y avait une entrée, une cuisine, salle de bain, une salle à manger et deux chambres. Et je payais pas cher. J'étais sous la loi de 48. C'était formidable. Tu n'as pas le droit de vous mettre dehors. Et alors là, maintenant, j'y suis plus. Je ne pouvais plus monter les 5 étages. Je montais à la fin à 4 pattes. Alors là, oh, c'était un vrai travail pour monter au 5e. Et il n'y avait pas d'ascenseur. Alors bon, je suis atterri là. 635 euros ici. Et si je payais pour 3 mois, 665 euros là-bas, je vous dis. Alors, hein, non, ici, c'est ni bon ni rien du tout. J'ai eu des souris, des morpions. Et qu'est-ce que j'ai encore? J'ai eu des punaises. Non, il y a eu tout. Ici, il y a une bande de feignants qui ne savent pas se laver, alors.
Et du coup, pourquoi vous n'avez pas pris un appartement avec ou dans un immeuble avec ascenseur?
Le loyer, comment j'aurais pu payer? Parce que ma retraite, elle n'est pas formidable. Quand vous avez enlevé le loyer puis le manger, il ne reste plus grand-chose après pour vivre.
Vous faisiez quoi comme travail?
Taulier. Réparer les voitures. J'ai payé pendant 20 ans, 4%, qu'on me retenait sur ma paye, pour ma complémentaire, pour ma retraite. Alors il me semble que maintenant, on veut me le retirer. Non mais oh.
Pourquoi on vous veut les retirer?
Mais monsieur Macron, qu'est-ce qu'il fait? Le salaud, qu'est-ce que c'est que ce salaud-là? Moi j'ai pas voté pour lui, je vous le dis tout de suite. Puis je suis pas prêt de voter pour lui. Lui, il ferait mieux d'y enlever de sa paye, lui.
Du coup, vous allez être touché par le vote.
Oui. Comme beaucoup d'ici. Mon voisin, c'est pareil. Ils n'ont qu'à commencer par eux. Tous nos députés, tous nos sénateurs, donner un peu de pognon pour les jeunes. Ça irait mieux. Et pour ceux de retraités, c'était inadmissible. On l'a travaillé, on a gagné ça. Mais ça m'emmerde, ça. Ça m'emmerde plus que m'emmerder, ça.
RTL Matin. Écho Manantou.
6h55, au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron, une clarification s'impose sur l'une des mesures phares du programme du nouveau président. On a donc besoin de Christian Menanteau. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
On fait un point sur la hausse de la CSG.
Oui, alors c'est nécessaire, parce que ce sujet va concerner tous les salariés, mais aussi 9 millions au moins de retraités. Alors, il y a là une volonté de renforcer la solidarité entre les seniors de la génération favorisée, celle du baby-boom, de l'après-guerre, avec les salariés actuels, puisque la hausse de 1,7% va financer les 21 milliards de baisses de cotisations chômage et maladie destinées aux actifs.
Les impôts vont pas baisser tout de suite, mais l'augmentation de la CSG, elle, est maintenue.
Les contributeurs nets seront les 60% de retraités les plus aisés. Les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les jeunes.
Bonjour mademoiselle.
Vous allez bien?
Mademoiselle va bien?
Oh, je vais bien, oui, franchement, oui.
Vous êtes infirmière?
Oui, voilà, oui, depuis 14 ans.
14 ans?
Oui, je travaille depuis 14 ans, depuis 2004.
Ça a changé un peu la population ici?
Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est plutôt des gens qui sont en situation de précarité, des SDF, des gens qui n'ont pas de logement, qui sont à la rue, donc.
Alors, c'est pas un choix.
C'est pas un choix.
C'était pas là la prise de sang. Ouais.
C'est pour sortir de la rue, quoi.
Voilà, tout à fait, sortir de la rue, tout à fait. Voilà. Et puis ils sont de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes. 60 ans, voilà.
Ils sont
là, 61 ans, ils sont ici, donc c'est de plus en plus jeunes, voilà, qu'on les a, voilà, oui.
Parce que là, je pense que, comme tout le monde, vous avez dû entendre parler que M. Macron, il veut augmenter la CSG pour les retraités, parce que les retraités s'en sortent mieux que les jeunes.
Mais ce qu'ils pensent, voilà, donc, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on est riche, pas du tout. Quand vous avez un loyer, le gaz, l'électricité, le téléphone, ça va vite? Ça va vite? Je trouve quand même, c'est quand même un peu... Taper encore sur les plus pauvres, je trouve. Excusez-moi de l'expression, mais c'est encore taxer les plus pauvres, voilà. Même nous, ce qu'on avait à l'administration, ben, les avantages, ça se succède. On vous enlève tout. Tout est enlevé, donc le cycle minimum pour vivre, c'est pas évident, hein.
Est-ce que vous êtes fonctionnaire, du coup?
Oui, voilà, oui. Ouais, ouais.
Travailler pour la ville de Paris.
Voilà, oui, ouais, depuis bientôt 40 ans, donc voilà. J'ai vu un peu la progression. J'ai l'impression, je me dis maintenant, j'ai l'impression que je travaille plus et je gagne moins. C'est le constat que je fais, voilà, oui.
Bon, alors, monsieur...
Et oui, de plus en plus de précarité aussi parmi les personnes âgées, n'en déplaise à Monsieur Macron. Et dans 40 ans, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Je vous laisse imaginer les retraites de la génération ubérisée. En attendant, on retourne à la réalité, où en attendant le repas, on croise d'autres vies cabossées.
Bonjour. Vous appelez comment ?
Madame Libouton-Chrétienne. J'habite au troisième étage, chambre 336. Ça fait 20 ans que je suis là.
20 ans ?
Oui.
Avant, vous habitiez où ?
J'habitais à l'Armée du Salut, dans le 13e.
Vous faisiez quoi, vous, dans la vie ?
Moi, j'étais restauratrice. J'ai tenu un restaurant à Boulogne-Billancourt pendant 30 ans.
Avec votre mari ou toute seule ?
Avec mon mari. Après, j'ai été gravement malade et puis on a quitté le restaurant s'est vendu. Mon mari a touché l'argent, il ne m'a pas donné un centime parce qu'on n'était pas mariés. J'ai fait une dépression, une grave dépression.
Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Ben, rapport à mon mari, hein. Quand je descendais, il n'y avait rien dans la caisse, alors moi, ça m'a mis en colère, j'ai cassé toutes les bouteilles, j'ai fait une dépression nerveuse, et puis je me suis trouvée dans la rue. Moi, je n'ai pas eu de parents, hein. Je suis une enfant de l'assistance publique. Mon mari, c'était le premier homme qui m'a eu, quoi. J'ai eu des enfants, deux filles avec lui.
Et vos enfants
Mes enfants... Pour même pas en parler parce que c'est bien quand ils sont petits, mais quand ils sont grands, ils volent de leur propre aile. Ils me connaissent même plus maintenant.
Vous n'avez plus de lien avec eux ?
Non, j'ai plus rien, pas de relation avec eux.
Et après avoir vendu le café, alors lui, il est parti avec l'argent ?
Il est parti avec l'argent. Il est parti avec 360 millions. Parce que c'était bar, café, hôtel, restaurant. J'avais un hôtel. J'avais 30 chambres. J'avais 20 chambres au mois et 10 à la journée. J'étais son esclave, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez fait après ?
Après, quand j'étais malade, ils m'ont mis dans une maison thérapeutique, dans le Cher. Et puis après, j'étais guérie. Je me suis trouvée dans la rue sans rien. Je suis débarquée à l'Armée du Salut. À l'Armée du Salut, je suis restée 10-11 ans. Je suis une ancienne salutiste de l'Armée du Salut. Et après, de l'Armée du Salut, comme ils ne pouvaient plus garder personne, je me suis retrouvée ici.
Vous payez combien ici ?
À peu près 350, par là, à peu près.
Et votre pension retraite, elle est de combien ?
Ça me fait à peu près 700 euros par mois. Vous savez, quand vous avez tout payé, il ne vous reste plus rien. Hein, parce qu'il y a une assurance à payer ici, hein. Alors, on est nourri du lundi au samedi, il y a le restaurant. On ne nous prend pas beaucoup pour le restaurant, 5-30, c'est pas beaucoup. Hein. Oui, oui.
Vous avez eu une vie difficile, vous, en fait.
Vaut mieux pas en parler. Ça reste secret. C'est mon secret à moi, ça. J'ai beaucoup souffert dans la vie, beaucoup, 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 beaucoup.
Bonjour.
C'est un plumeau. Hein ? J'ai cru que c'était un plumeau, votre micro, et j'ai cru que vous veniez pour faire le ménage de cette dame. Je suis sûre que c'est vrai, excusez-moi. D'accord.
Vous appelez comment ?
Moi, Bernadette.
Vous êtes ici depuis combien de temps ?
Oh là, depuis 11 ans, depuis 2005. Mais ici, et comme partout, ça manque de personnel, surtout ça, faut le dire. Des fois, la directrice se trouve toute seule, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, il n'y a pas de personnel et tout.
Et alors du coup, le fait qu'il manque du personnel, ça pose des problèmes ?
Exactement. Moi, je vois souvent, moi, la directrice, elle est toute seule et ça, c'est pas tout à fait normal. Hein. Parce qu'il faut bien leur donner des jours de repos aux infirmières et tout ça. Et alors, bon, personne, il n'y a personne pour remplacer.
Ouais. Bonne journée.
Hein. Bonne journée. Bonne journée à vous. Ouais. Merci beaucoup. Vous savez où elle est, la directrice ?
Ah bah justement, dans le bureau. Dans le bureau. Allez-y. Ah, c'est bon, c'est bon. Allez-y, dans le bureau.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
D'accord.
Vous allez m'énerver encore avec ça, ça va recommencer.
Monsieur le maire, vous me faites confiance.
Voilà, là, là.
Donc arrêtez avec les
insultes. Mais j'en ai marre de votre piqûre de merde. Hein.
Oh non, 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 ça y est, j'en parle plus. Allez, j'ai compris, on en parlera après. Allez, venez. Non, je vous la donnerai après. D'accord. Venez, vous en prie.
Je rentre dans votre bureau. Je peux fermer la porte?
Oui, allez.
Je peux juste vous demander de vous présenter à nouveau.
Je m'appelle Madame Bouekil-Fatia, je suis donc la directrice de la résidence service Saint-Éloi, un établissement qui est habilité à l'aide sociale, qui dépend du centre d'action sociale de la ville de Paris.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu l'évolution de la population ici, dans la résidence que vous dirigez?
Alors, il y a eu une montée en charge depuis quelques années d'une population plus précaire. Auparavant, les résidences-services étaient plutôt destinées à des personnes âgées en perte légère d'autonomie qui voulaient rompre l'isolement social. Et effectivement, on s'est aperçu, il y a eu une montée en charge de ce public vieillissant et précaire à partir de 2003. Alors, qui pouvaient avoir travaillé toute leur vie, mais qui se sont retrouvés dans des situations à un moment donné, des accidents de parcours. Pour certains, c'était aussi les ruptures avec leur femme ou autre, où ils sombraient dans l'alcool, où ils se sont laissés aller, et qu'effectivement, ces personnes-là, on les oriente vers des résidences-services. Et en même temps, on va dire que cette précarité entraîne aussi des difficultés à la relation à l'autre. Donc souvent, on a des problèmes psychiatriques, ou des problèmes de Diogène, des personnes qui amassent. Et donc, on a découvert beaucoup de problématiques psychiatriques et alcool également. Et du coup, nous et les équipes, on a dû faire face effectivement à cette nouvelle population. Et puis maintenant, je dirais qu'effectivement, on a ce public malheureusement précaire qui s'est multiplié. Parce que quand on touche à peu près 1 000 euros de retraite, pour certains, pour ceux qui touchent, une fois que vous avez enlevé les charges avec le loyer, l'eau, l'électricité, il resterait peu à la fin.
Des gens qui se retrouvaient au chômage?
Tout à fait. Qui n'avaient pas une retraite pleine, par exemple, et qui, au moment de la retraite, avaient très peu de ressources. Plus de ressources amènent rapidement à une précarité et amènent rapidement à la rue, surtout.
Est-ce que vous avez des retraités qui vont avoir des retraites au-dessus de 1 200 euros aussi?
Oui, mais un retraité qui a 1 200 euros, par exemple, vous enlevez le loyer, il va en rester 500. Il faut encore payer la mutuelle. Pour une personne seule, ça doit être du 100 euros. Les médicaments qui sont plus si bien remboursés. Se payer une paire de lunettes parce que la vue baisse en vieillissant. Il faut aussi se soigner les dents. S'équiper d'un appareil auditif, au minimum, ça doit être 10 000 euros. Donc, on va vraiment au-devant de difficultés pour pouvoir se soigner et bien manger. Donc, effectivement, le travail des résidences-services, c'est de leur permettre de vivre correctement avec les petites retraites qu'ils ont. Je dis bien petites retraites, parce que c'est vraiment pas excessif, 1 200 euros par mois.
Ça, va falloir enlever encore 30 ou 40 euros de CSG qui vont devoir payer en plus à partir de janvier 2018.
Tout à fait, tout à fait. Donc l'État ne se rend pas compte. Je pense que quand ils prennent des décisions, ils ne vont peut-être pas sur le terrain. Ou en tout cas, ils ne vont pas au cœur des réels problèmes de nos aînés. J'ai l'impression qu'on les laisse dans des situations déplorables. C'est quand même pas normal. Donc effectivement, s'il faut rajouter quelques points de CSG, bah, ça sera peut-être quelques repas que ne prendront pas nos résidents parce qu'ils n'ont pas les moyens d'honorer le prix d'un repas supplémentaire s'il y a la CSG en plus, effectivement. C'est les mettre dans un état de précarité encore plus avancé qu'ils ne le sont. Parce que la situation, c'est vrai, va en se dégradant quand même.
On ne devrait pas vieillir quand on n'a pas de fortune. On ne devrait pas blanchir quand on n'a pas de sous. Allons, va, j'en guenille, subis ton infortune. Tout cela finira quand tu seras dans le grand trou. Mais bon Dieu, que fait-on sur la terre? Vivre sans pain, sans gîte et sans souliers. Étant jeune, on se fiche de la misère. On ne devrait pas vieillir quand on est oublié. On ne devrait pas vieillir quand on est oublié. Avoir des cheveux blancs, c'est l'entrée aux galères. Avoir des cheveux blancs, oui, c'est perdre son pain. C'est la double souffrance, vieillesse et misère. Oh, l'horrible tableau, un vieillard mourant de faim. Être vieux, c'est casser sa machine. Pour le patron, c'est une bête estropiée. On accepte un salaire de famine. On ne devrait pas vieillir quand on est ouvrier. On ne devrait pas vieillir quand on est ouvrier.
On ne devrait pas vieillir quand on n'a pas de fortune. Et c'est vrai que les vieux sont de plus en plus nombreux à tomber sans assez de bruit dans la pauvreté et surtout sans pouvoir rebondir.
Et avec la précarité vient aussi la mort sociale. Plus de 900 000 personnes, parmi les plus de 60 ans, vivent aujourd'hui dans un isolement profond, d'après une étude récente de l'association Les Petits Frères des Pauvres. D'où l'importance vitale de fonds publics pour maintenir des résidences comme Saint-Éloi. Un grand merci à tous les résidents et à Madame Boisquil, la directrice.
Mais pendant ce temps-là, comme un bruit qui court, que les Catalans ont foutu le bordel. Eux aussi. Samedi dernier, Antoine Chao était en direct de Barcelone, à la veille du référendum interdit sur l'indépendance de la Catalogne. Le vote, vous en avez eu des échos mouvementés, alors moins d'une semaine après, c'est là que ça se complique. Le Premier ministre Rajoy balaie le vote de la main, le roi tape sur le guéridon, l'ONU demande une enquête pour les violences policières et notre président marque son soutien sans faille à l'unité de l'Espagne, sans un mot sur les violences policières. Retour sur cette journée mémorable.
De 5h30 du matin, devant l'école Collasso y Gilles, il y a eu un appel pour que tout le monde commence à se réunir devant les écoles. Alors, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont là, certaines qui ont dormi ici et d'autres qui arrivent doucement. Alors, ils demandent à faire un blocage, à ce que tout le monde se mette juste devant la porte. Et de façon pacifique, résistance pacifique à une tentative d'expulsion qui a été annoncée pour 6h ce matin, donc 1er octobre, jour du référendum en Catalogne d'autodétermination. Tout le monde s'assoit devant donc, pour faire une chaîne humaine. Heures, il se met à pleuvoir à Barcelone. Et ça y est, les portes du bureau de vote viennent d'ouvrir à 9h20. Je ne sais toujours pas si c'est ouvert, il y a tellement de monde devant la porte. Abrio, c'est ouvert.
Et ils ont voté, les dés sont lancés, mais le jeu ne sont pas faits. Le coup de poker des séparatistes catalans ne passe pas. Et on va essayer de comprendre les tenants et aboutissants de cette journée mémorable du 1er octobre 2017. Pathétique ou héroïque, selon comment va se résoudre ce conflit qui déchire l'Espagne et questionne l'Europe. Retour donc dans les rues de Barcelone, sans céder au manichéisme et sans oublier la moitié des Catalans, quand le courage aujourd'hui consiste à écouter l'autre et à s'asseoir pour parler, selon Ada Colau, maire de Barcelone et à la tête du parti de gauche radicale et écologiste Barcelona en Comú.
Allez hop, en vélo, d'un bureau de vote à l'autre. Il n'y a que ça de vrai à Barcelone pour traverser la ville. Et en plus, il y a des pistes cyclables partout parce que la mairie, donc Barcelona en Comú, a fait du super boulot à ce niveau-là. Quand ils sont arrivés à la mairie, il n'y avait pas d'emplacement pour les vélos à la mairie. Ils ont commencé par faire installer des emplacements pour garer les vélos parce que pour la plupart d'entre eux vont à la mairie en vélo le matin. Il est bientôt 14h, il y a très peu de personnes qui ont réussi à voter encore dans ce bureau. Les gens attendent patiemment.
Si, c'est patiemment, mais vous avez vu ça?
Ce qui s'est passé dans d'autres bureaux?
Si, il y a des choses vraiment terribles. Je n'ai pas d'accord avec la brutalité policière.
Donc encore des vidéos qui tournent, des petits films qui tournent, des violences policières, en fait, des blocages d'urnes. et de la police qui essaye d'expulser les gens des bureaux de vote, hein, ou de les fermer.
Mais il y a plusieurs blessés.
Oui, on parle de 38, d'une quarantaine de blessés maintenant.
C'est,
ouais.
c'est.
Et là, à chaque fois que quelqu'un a voté, on applaudit. Hein. Mais ça se fait presque, ça se fait au compte-gouttes quand même, les votes. Dans ce bureau, de petites mamies qui ont voté. Passant las, passant tiennas primero, non ? Et on laisse passer les personnes âgées en premier. Voilà, quelqu'un qui sort encore de l'école de Drassanes. Bon courage. Joan Subirats, vous êtes chercheur en sciences politiques à Barcelone. Alors ce séisme du 1er octobre, séisme en Espagne, mais est-ce que c'est pas aussi un séisme en Catalogne qui pourrait mettre à mal ce que vous appelez la convivencia sociale, le vivre ensemble en Catalogne?
Oui, on doit savoir que l'appui à l'indépendance en Catalogne, c'est pas tellement majoritaire. Je veux dire que il y a une importante part de la population en Catalogne qui est favorable à l'indépendance, mais plus ou moins, on peut parler de 2 millions de personnes sur 5 millions et demi qui sont favorables à l'indépendance. Mais ça veut dire qu'il y a une part importante de la population en Catalogne qui sont au moins en silence. Nous ne savons pas exactement quelles sont les positions sur l'indépendance. Les enquêtes, si on demande à la population sur les droits des Catalans de décider son relation avec l'Espagne, il y a 75%, plus ou moins, qui sont favorables à qu'il y ait un référendum légal et accordé avec l'État espagnol pour décider sur cette relation. Alors, ça veut dire qu'il y a plus ou moins 40, 45, 50% de la population qui sont favorables à l'indépendance, ça dépend des moments, et 75% qui sont favorables à ce qu'on appelle le droit à décider. S'il y a intention sur ce sujet-là, et si on n'arrive pas à une certaine position d'accord entre le gouvernement espagnol et le catalan, alors la tension, il peut peut-être créer des tensions sociaux très importantes entre des gens qui sont très mobilisés sur l'indépendance et deux gens qui peut-être qu'ils sont favorables à un référendum, mais ils sont pas tellement favorables à décider sur l'indépendance sans un référendum accordé et légal.
De l'Angel. Et un autre bureau de vote, ça applaudit. Institut Miquel Travail. Ya votaron?
Si.
Si? Que tal?
Si. Molve.
Molve?
Molve, et tal? Perfecto, está hecho.
Si, no hubo demasiado cola, il n'y a pas eu trop de monde.
Non. Ni demasiada cua, ni tout perfecta. Y una organización excepcional.
C'est un bureau de vote aussi ici, il y a beaucoup de monde devant. Qui attend pour voter, il y a beaucoup de gens qui ont aussi déjà voté, ça vote quand même un peu partout. Alors il y a toujours l'inquiétude que la Guardia Civil débarque et essaye d'embarquer les urnes, mais les gens sont là, tranquilles, c'est assez détendu, les gens sont là pour voter et pour effectuer leur devoir de citoyen catalan. Allez hop, Rambla del Raval, direction Plaza Catalunya, où semble-t-il, il y a un rassemblement qui converge de l'extrême droite espagnole contre le référendum, pendant que les hélicoptères tournent au-dessus de Barcelone et que les files s'allongent devant les bureaux de vote en ce 1er octobre 2017. C'est le rassemblement d'extrême droite sur la Plaza Catalunya et il y a de la bagarre qui sont en train de... phalangistes qui se sont donné rendez-vous ici, l'extrême droite, qui ils essayent d'attraper tous les gens qui peuvent avoir des drapeaux catalans. Donc une vingtaine de fachos là, il y a les forces de l'ordre là, qui les repoussent. Jaume Claret, vous êtes docteur en histoire et enseignant à l'Université ouverte de Catalogne. Vous avez travaillé sur la répression franquiste et sur la question catalane, sur le problème catalan même, vous dites. Qu'est-ce qui doit se dénouer aujourd'hui? Franco, sur son lit de mort, disait que había dejado las cosas bien atadas, non, qu'il avait laissé les choses bien nouées, bien ficelées. Qu'est-ce qui doit se dénouer aujourd'hui en Catalogne?
Ce qui semble évident, c'est qu'une des causes de la guerre civile et après du franquisme, c'est la question territoriale, c'est la question nationale. Et longtemps après la mort de Franco, la question territoriale est toujours problématique. Et ce que Franco voulait dire, c'est que le nationalisme espagnol ne permettrait pas un questionnement sur ce qui est la base de la souveraineté, qui est attribuée à tout le peuple espagnol. Et par exemple, ne reconnaît pas l'existence d'autres nations à l'intérieur de cet État espagnol. Si on regarde l'histoire contemporaine espagnole, on voit que tous les 30 ou 40 ans se repose la question territoriale et nationale. Le problème, c'est qu'elle n'est jamais résolue et qu'on la repousse à 30 ou 40 ans plus tard. Et chaque nouvelle génération s'y confronte. Parce que la réalité, c'est que la diversité espagnole existe, elle est réelle, elle est là. Mais ni le nationalisme castillan n'a assez de force pour s'imposer et créer un espace uniforme, ni les nationalismes non castillans n'ont assez de force pour briser cette matrice castillane. C'est une lutte entre deux forces, dont l'une peut s'imposer à l'autre. C'est comme le mythe de Sisyphe, la tentative permanente de chaque génération de trouver un arrangement, un équilibre de ces tensions territoriales. Mais si on les regarde de façon positive, c'est aussi une richesse. C'est mieux reconnaître quelles sont les racines espagnoles, des racines très diverses, avec des histoires, des cultures différentes et des langues différentes. Mais le problème est de trouver comment articuler ça politiquement, de quelle façon les différentes cultures présentes en Espagne peuvent se sentir suffisamment reconnues. On pensait qu'après la transition, on avait trouvé la formule, celle des autonomies. Mais 30 ans plus tard, ce modèle devrait peut-être se revoir, se réformer, s'actualiser. Mais quand on ouvre cette boîte de Pandore, le problème est que les secteurs les plus centralistes veulent diminuer les pouvoirs des régions autonomes. Quand les pouvoirs autonomes veulent, notamment la Catalogne en ce moment, veulent aller plus loin dans la voie fédéraliste.
Allez, on continue la balade, la bicyclette, jusqu'au prochain bureau de vote. Non, il n'y a pas eu match de foot avec le Barça qui aurait gagné. C'est la veille du référendum d'autodétermination et les rues de Barcelone sont animées à partir de 10h du soir par les casserolades et par les voitures qui klaxonnent en passant devant l'école industrielle occupée qui deviendra demain un bureau de vote. Alors, l'école industrielle, hier soir il y a eu une occupation de cette grande cour et de ce bâtiment incroyable. Et là, il y a beaucoup de monde, il y a eu un appel à venir défendre cet espace parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de votants ici et donc il faut protéger les urnes. Il est 19h, il reste une heure. Vous avez réussi à voter, vous?
J'ai voté.
3h30.
3h30 d'attente.
3h30 d'attente avec la pluie. avec beaucoup de problèmes informatiques, mais à la fin, on a pu voter.
Parce que ça a été compliqué ce matin, donc il y a les forces de l'ordre qui ont essayé de rentrer ici.
Oui.
Pour les entrées, ils ont fait des barricades et ils n'ont pas réussi quoi, à entrer. Oui. Donc c'est bien. Apparemment, c'est le plus grand bureau de vote de la Catalogne. Alors,
il y a 17 tables ici.
Oui.
Donc là, maintenant, c'est protéger ces votes qui ont été exprimés, qui se sont exprimés ici.
C'est
donc
ça.
Les protéger encore jusqu'à 20 heures, encore un peu moins d'une heure, quoi. Ouais.
C'est ça.
Aussi montrer aux enfants, pour qu'ils voient aussi ce qu'il y a. Bon, c'est pas normal dans une démocratie que ces choses pareilles se passent, quoi. La police, elle n'est pas là pour nous défendre. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est compliqué, quoi.
Bonne soirée.
Les pompiers qui sont arrivés et qui sont applaudis parce qu'ils ont protégé la bonne tenue du référendum. Ils se sont interposés entre les votants et les forces de l'ordre. Et là, ils sont venus pour voter. Donc il y a une délégation de pompiers qui a traversé la foule dans la cour de l'école industrielle.
Una jornada electoral exemplar, cívica i normal amb totes les garanties. Per tant, i això...
Donc le bureau fermera à 8 heures, le bureau de cette école de l'industrie, l'école industrielle. Merci à tout le monde, une journée qui s'est bien passée, il n'y a eu aucun problème. Et le scrutin a pu se dérouler dans des bonnes conditions démocratiques. Nous avons voté. Alors le bureau de vote de l'école Coyas Oiji, la tenue, c'est le décompte en ce moment, les grilles sont fermées et on va avoir le résultat des participants de ce bureau de vote.
Avui hem votat a Coyas Oiji i hem votat 1298-6. 136 nos. 35 nuls i 56 blancs. Hem votat i hem guanyat. Visca la terra!
Viva!
Ce qui est étonnant, Santiago López Petit, c'est comment s'est recomposé les forces indépendantistes. Parce qu'effectivement, ça a été porté pendant des années par des partis de droite ou de centre-gauche, disons très conservateurs, très corrompus aussi. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles forces vives qui viennent porter à nouveau cet étendard du nationalisme ou de l'indépendance, qui sont effectivement portées par les mouvements progressistes et par cette nouvelle génération del 15, mais donc des indignés espagnols de 2011.
Exactement. Je suis pas très très optimiste, mais le 3 octobre, comme réaction contre la répression, Barcelone et toutes les villes de Catalogne a été prise par des gens qui débordaient l'unité politique du nationalisme, clairement.
Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Madrid, à Barcelone et dans d'autres villes d'Espagne en appelant au dialogue. La situation reste tendue et de part et d'autre, ce ne sont pas les montées de testostérone de Rajoy et Puigdemont qui vont régler les choses. Du dialogue donc, et que les rues restent aux mouvements sociaux et émancipateurs.
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, franceinter.fr. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. Que le bruit court, hashtag comme un bruit. Juste après les infos, vous retrouvez Daniel Morin et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.